Revue de presse de l'april, semaine 42, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Alors, petite revue de presse cette semaine avec cet article.
Normal, revue de presse, hein. Cet article, c'est souvent le cas puisqu'on cherche à obtenir ce nombre magique.
Alors, au programme cette semaine, donc Wired, quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle supporter? Donc avec encore Richard Salman. Silicon.fr avec l'INRIA qui fait de l'open source. PC Impact avec une nouvelle réponse du ministère de l'Intérieur sur les chiffres du logiciel libre dans les administrations. Direction informatique avec Montréal, encore le Québec, qui se met toujours encore plus au logiciel libre. Silicon.fr avec Oracle et l'open source. Donc là, ça va être un article trollesque. ZDNet avec la suite du contrat Open Bar Microsoft et des nouvelles informations. Et le Parisien.fr avec Saint-Malo qui organise des conventions de bidouilleurs.
Donc du bon en perspective. On commence avec Wired. Quel niveau de surveillance la démocratie peut-elle supporter? De Richard Stallman, traduit par nos amis du Framablog qui ont fait une super traduction d'un super article.
Voilà, donc c'est un super article bien long où Stallman expose ce qu'il pense de la surveillance globale et qu'est-ce qui est pas bien, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça. Et donc ça touche à l'actualité et ça montre sa vision de ce que devrait être la surveillance.
Donc un bon article qui prend du recul et qui parle d'un point de vue global, politique. Il parle de ce que c'est la démocratie pour lui et comment la démocratie peut prendre en compte la surveillance qui pour lui n'est pas illogique. Ça peut être normal, utile d'avoir des caméras sur la route pour vérifier qu'il n'y a pas eu des gens qui ont enfreint les règles de manière trop dangereuse. Par contre, il a des préconisations, je dirais, pour essayer de ne pas trop empiéter sur la démocratie.
Alors, donc déjà, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, la surveillance, elle est beaucoup trop forte. Et donc, les lanceurs d'alerte type Snowden ne peuvent plus parler, et sous peine de finir en prison ou harcelé dans tous les coins.
Oui, il tape bien d'ailleurs sur Obama hein, et l'administration actuelle qui avait dit qu'elle sauvegarderait, qu'elle ferait attention aux lanceurs d'alerte qui sont importants, qui nous évitent les grands problèmes avant qu'ils arrivent. C'est vraiment, généralement, c'est les derniers pare-feu qui peuvent nous aider. Mais là, Obama, il pourchasse Snowden dans le monde entier, alors qu'en fait, ce gars, et Stallman est vraiment sur cette ligne-là, ce gars nous a révélé des choses vraiment intéressantes et continue à nous les révéler. Aujourd'hui, il vient de révéler que la France, les appels téléphoniques français sont enregistrés par la NSA depuis 30 ans.
Voilà. Et donc, c'est un des gros points que Stallman soulève, c'est la centralisation des données. Il dit qu'il n'est pas contre, par exemple, avoir une caméra dans la rue, mais à condition que les données ne soient pas regroupées en un seul endroit avec tout le monde qui a accès à tout. Il veut vraiment avoir un morceau, que chaque caméra se gère un peu elle-même et que la justice ne puisse avoir accès que via un mandat.
Voilà, donc il a des bonnes idées. Moi, je recommande d'aller lire cet article, ça vous donnera un peu de recul sur ce que c'est que ces problématiques-là, d'où ça retourne, d'où ça tombe. Et effectivement, il a des idées techniques pour essayer de corriger un peu tout ça, mais qui tournent sur cette idée de ne pas centraliser les données. Moi, j'ai une autre idée, c'est quand il y a des données auxquelles les gens peuvent avoir accès, parce qu'il le dit, hein, attention, il y a des données de sécurité, mais les gens qui bossent à les surveiller et à nous surveiller, eh bien, ils en profitent eux aussi, et ils l'expliquent un petit peu, voilà, vous voulez draguer une minette que vous avez vue dans la rue, eh bien, avec toutes les caméras de surveillance, vous allez être aidé pour cela, et les gars le font. Il y a des gros scandales qui ont été révélés, il y en a certains d'autres qui sont cachés. Les gars utilisent ces données-là quand ils sont surveillants, pour s'aider dans leur vie. Ça me paraît logique qu'ils le fassent, puisqu'ils peuvent le faire. Moi, j'ai une idée. Eh bien, s'il y a des données qui sont centralisées quelque part et qui sont accessibles à des gens pour nous surveiller, moi, je dis, on devrait tous y avoir accès. Et là, on va en discuter et je veux voir ce que les hommes politiques en pensent.
Alors, Silicon.fr, INRIA, plus de 500 logiciels sont diffusés en open source par Ariane Becky.
Donc c'est une interview, des questions qui sont posées à Patrick Moreau, le responsable du patrimoine logiciel au sein de l'INRIA, donc un grand ponte, peut-être même un mandarin, allez savoir. Et ce gars-là, il a une bonne vision de ce qui se passe à l'INRIA. Donc l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatisme, il me semble. Et donc c'est un gros truc, 3500 gars, des budgets quand même assez conséquent, 3500 gars, 3500 chercheurs, donc c'est pas rien, et ces gars-là, ils font plein de logiciels.
Voilà, ils font plein de logiciels, et en particulier, ils font beaucoup de libre, et d'open source, La chose intéressante à l'INRIA, c'est qu'il y a une vraie politique de logiciel libre avec des vrais groupes de travail. Et donc, ils vont regarder les licences, ils vont regarder qu'est-ce qu'ils peuvent distribuer ou ne pas distribuer.
Donc, lui, il estime qu'il y a 50% des logiciels de l'INRIA qui sont en libre. Et il parle aussi du fait que, voilà, ils ont été à l'initiative d'une nouvelle licence libre qui s'appelle Cécile, création française. Je ne suis pas forcément enchanté, j'aurais préféré la GPL tant qu'à faire, mais bon, tant pis, c'est pas si mal. Et ils sont à l'initiative de création d'entreprises comme Bonitasoft, qui a fait parler un peu d'eux, je crois que c'est pour la gestion de Big Data notamment, donc qui marche assez bien. Et voilà, donc quelque chose d'intéressant, si vous voulez aller jeter un œil, c'est pas mal, l'INRIA, ils font des choses bien et intelligentes.
PC Impact, l'intérieur vante les économies dues au passage d'Outlook à Thunderbird par Xavier Bern.
Donc effectivement, c'est un article qui est dans la lignée des réponses à des questions qui ont été posées avant l'été. Et en gros, la question, c'était combien vous dépensez en logiciel, vous, les ministères de l'État français, et en logiciel privateur par opposition à des logiciels libres, parce que les logiciels libres peuvent coûter de l'argent.
Voilà, et donc bah là, le constat, il est le même que partout. Donc ils sont passés au libre récemment en migrant deux outils, donc Thunderbird pour les mails et GLPI pour la gestion du parc informatique. Et le constat est, comme d'habitude, c'est que ça coûte 5 fois moins cher pour Thunderbird par rapport à Outlook et 10 fois moins cher pour GLPI.
Donc Thunderbird, on vous le recommande, c'est un logiciel pour lire ses mails et discuter en général. Je crois qu'il y a un petit logiciel associé pour faire de la gestion de calendrier. Donc c'est des trucs qui sont pas mal, faits par les gens de Mozilla, des gens qu'on apprécie. Et là, le ministère qui utilise ces outils-là, moi je trouve ça génial, je ne savais pas. Et le fait que ça leur économise de l'argent et qu'ils nous donnent un levier sur lequel on peut parler, voilà, c'est 5 fois moins cher. Effectivement, Outlook, c'est pas des trucs anodins, il faut des admins, il faut des licences qui peuvent coûter vraiment la peau du cul. Donc là, de pouvoir s'en passer, c'est quand même pas mal.
Et après, le ministère de l'Intérieur a été un peu plus loin parce que, par exemple, la Gendarmerie nationale a été contributeur à Thunderbird avec des outils de sécurité parce qu'ils en avaient besoin. Donc pour authentifier les mails ou des choses comme ça. Et donc ils ont contribué et participé au développement de Thunderbird. Direction informatique, Montréal se dote d'une nouvelle plateforme de données ouvertes par Benjamin Gébrac.
Donc nos cousins de l'autre côté de la grande mare et qui font des trucs super. Là, ils font de l'open data au niveau de la ville, au niveau de la cité. L'open data, c'est quoi ?
Alors, open data, c'est l'ouverture de toutes les données administratives, des données publiques. Donc, c'est mis à disposition par Internet. La grosse différence avec la France, c'est que il y a une vraie volonté aussi dans ce mouvement-là. Et donc, ils mettent en place des logiciels, ils essayent de s'organiser pour publier ces données-là et pas mettre ça en vrac dans un coin et que personne ne puisse s'en servir.
Oui, parce qu'il y a une problématique de volume, d'accès. Les États-Unis aussi l'ont fait. Ils ont publié des grosses choses. La France l'a fait. On a publié des pavés sur Internet. Mais bon, il faut les mettre à jour régulièrement, ce que les administrations françaises n'ont pas fait, il semblerait, malheureusement. Et puis, il faut non seulement les mettre à jour, les alimenter, mais les rendre les plus accessibles possible. Et bien là, ils ont l'air de faire ce travail-là, d'aller dans ce sens-là. Alors, il faudrait qu'on jette un œil. Mais notamment, ils utilisent un logiciel libre qui s'appelle CKAN, Comprehensive Knowledge Archive Network, et ça me paraît pas mal du tout, voilà, de centraliser tout ça, de le donner en accès sur Internet en utilisant une bonne brique.
Voilà. Et après, Montréal organise aussi ce qu'ils appellent les Eco Hack MTL, qui sont des événements qui regroupent des citoyens et qui sont là pour mettre à jour les cartographies, pour publier des données, faire de la photo ou mettre à jour des plans. Silicon.fr, Oracle et l'open source, je t'aime, moi non plus, par Ariane Becky.
Et oui, c'est un article trollesque, parce que là, on parle d'Oracle qui parle de l'open source, donc du logiciel libre, hein, généralement. Et moi, je rappellerai quelque chose, c'est qu'Oracle, c'est pas que des méchants, c'est aussi des méchants, hein. C'est des gens qui sont milliardaires, qui sont fait du fric sur les administrations et les grosses entreprises, en vendant une base de données qui est soi-disant le top, la meilleure, la formule 1 du truc, et en fait, vraisemblablement, c'est pas tout à fait le cas. PostgreSQL fait largement les mêmes choses. Mais là, ils se font du fric. Et avec ce fric, ils ont racheté Sun, une autre grosse boîte qui n'existe plus en tant que telle, mais qui a fait plein de choses pour le logiciel libre. Je dirais Java, ils ont aidé à libérer OpenOffice qui est devenu LibreOffice, et plein des ribambelles de logiciels. Et bien là, Oracle, ils se retournent un peu, ils disent, voilà, non, le libre, ça coûte trop cher.
Voilà, donc là, Oracle vient dire que l'open source, faut se méfier. Les chiffres qu'on donne généralement en disant on va gagner de l'argent avec ça, enfin, on va économiser de l'argent avec ça. En fait, l'économie à court terme qu'on peut réaliser, c'est que 10 à 20% du marché. Et donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable à long terme.
Et effectivement, il y a plein d'infrastructures, il y a plein de projets où le coût de la licence, en comparaison du reste, c'est pas très important. Vous construisez un pont, vous construisez un navire, oui, bah les licences, en comparaison du reste, c'est pas grand-chose. Mais nous, malgré tout, ça nous embête. Et ça nous embête de voir des sommes qui ne sont pas anodines, hein. C'est par millions d'euros et ça peut monter à des dizaines de millions et des centaines de millions d'euros assez rapidement. Et donc Oracle, ils engrangent. Oracle, ils se font de l'argent sur des logiciels qui existent largement dans des versions alternatives, libres, et qui sont pas mal. Même eux en font, puisque dans le panier de ce qu'ils ont racheté à Sun, il y avait MySQL, une base de données qui est la plus utilisée sur Internet, j'irais même jusqu'à dire, et qui fait largement l'affaire dans la plupart des cas.
Oracle, en fait, utilise aussi les logiciels libres dans ses propres solutions et ils le disent, en fait, le désavantage des logiciels libres, c'est surtout qu'ils soient isolés et donc les fabricants et les intégrateurs vont les assembler pour faire un logiciel plus gros, plus conséquent, plus robuste. Mais bon, ils vont pas cracher dans la soupe non plus, ils utilisent du logiciel libre pour leur propre solution. ZDNet, contrat Microsoft Open Bar, jeu de pouvoir et décision politique pour l'April, par la rédaction.
Donc là aussi, on reparle de grosses pépettes, mais pour l'administration française encore, l'administration donc de la défense, on parle d'une décision qui a déjà été faite sur un marché public qui a déjà été obtenu et sur lequel l'April pleure parce que y a un contrat qui a été passé avec Microsoft, qui est un contrat dit open bar, et on rage parce qu'en gros, l'armée va payer après coup son utilisation de tous les logiciels qu'ils veulent qui viennent de Microsoft, et on est bien embêté parce qu'il y a des documents qui viennent d'être révélés qui révèlent un peu le dessous des cartes.
Voilà, donc la petite chronologie des événements pour ceux qui auraient raté. Il y a eu donc un contrat. Enfin, l'administration a dû renouveler son parc informatique et ses licences. Donc normalement, il y aurait dû y avoir un nouvel appel d'offres. Et bizarrement, c'est Microsoft qui l'a remporté. Alors que l'April a eu des documents. Enfin, l'April a réussi à avoir des documents qui montrent que la solution Microsoft était presque la pire possible parmi l'ensemble des concurrents qui s'étaient présentés.
Donc il semblerait qu'il y a 9 experts qui ont rendu des conclusions là-dessus, et c'est là-dessus qu'on a obtenu des informations un peu plus précises. Et ces 9 experts, eh bien, ils expriment leur désaccord, et pour eux, ce n'est pas la bonne idée. Bon, je cite, l'offre faite par Microsoft constitue le scénario le plus risqué. En effet, il comporte 10 risques rédhibitoires et 2 critères destructifs. L'économie en ETP, je ne sais plus ce que ça veut dire, de ce scénario est inconnue. Le ROI, donc le retour sur investissement, est donc incertain. Ce scénario est donc fortement déconseillé. Donc voilà, on sait que techniquement, on va dire, en architecture, en organisation, c'était pas le choix préconisé.
Voilà, et pourtant, bah, au final, c'est quand même Microsoft qui a remporté le marché. Donc l'April a demandé à avoir accès à d'autres documents, enfin à tout ce qui touchait à ce marché. Et on a reçu des documents de la CADA, donc qui est la commission d'accès aux documents administratifs, qui montrent bah, qu'il y a eu des jeux de pouvoir et un peu des lobbies ou des choses comme ça derrière, qui ont remis en cause les conclusions qui avaient été posées. Et qui ont fait bah, par un jeu de enfin, on va pas dire corruption, mais pas loin, pour faire passer le marché en force auprès de Microsoft.
Bon, grand mot, en tout cas c'est moche parce que finalement c'est une décision politique, voilà, on préfère utiliser ça, soi-disant c'est ce qu'ils en disent, pour être en accord avec ce que font les autres alliés de l'OTAN. Nous on en rage parce qu'on utilise des logiciels dont on sait en plus avec les révélations de Snowden qu'elles nous écoutent et quand on est dans une armée c'est un peu embêtant.
Alors, leparisien.fr, Saint-Malo, les bidouilleurs du 21e siècle ont leur royaume, par Solène Durox.
Donc on reprend sur la bidouille, mais la bidouille au sens local où vous venez avec vos envies, vos moyens, et vous allez ressortir avec du logiciel, du hardware, du matériel libre que vous aurez fait vous-même.
Voilà, donc là, il y a des exemples de petits enfants de 10 ans qui viennent faire des robots, qui s'amusent à fabriquer, à recycler, à bidouiller tous les objets qu'ils peuvent trouver. À faire du logiciel libre aussi. Et il donne l'exemple bah, d'un amputé de la main, par exemple, qui a pu, via une imprimante 3D, se refaire une prothèse qui aurait coûté très très cher et mis beaucoup de temps à être conçue. Il a pu l'avoir en quelques mois et aujourd'hui il en est très content.
En plus, on peut apprécier le fait qu'on travaille soi-même à ce qu'on va obtenir derrière. Donc là, travailler à se construire une extension à soi-même, vraiment au sens réel, c'est quelque chose qu'on peut qu'apprécier. Et moi, j'applaudis dès demain. Bon, Nicolas, je te dis à la semaine prochaine.
Bah, à la semaine prochaine à tous.